Session théologique sur le mystère du Christ par le Père Philippe, le 21 août 1989 à Saint-Jeudard.
Bon, à quelques questions posées qui m'ont été transmises. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? L'intelligence et raison. Oui, c'est une distinction très importante. Ancienne qu'Aristote a faite, que saint Thomas a repris, qui a existé chez tous les pères de l'Église, à peu près, qui a disparu avec notre cher Descartes, et depuis qui est ensevelie. La distinction entre intelligence et raison. Vous allez comprendre, c'est très facile. Vous savez, la philosophie complique énormément les professeurs. Mais la philosophie, c'est simple. C'est quelque chose, c'est retrouver notre intelligence, qui est souvent enfouie. C'est être intelligent d'être philosophe. Si vous faites un peu de philosophie, vous devenez intelligent. C'est pas compliqué. La philosophie réaliste. Pas la philosophie idéaliste qui parle dans tous les sens. Saint Thomas distingue intelligence et raison. L'intelligence, c'est appréhender, saisir, juger. Dans le langage courant, on dira quelqu'un est intuitif. Il saisit. On va pas. C'est pas tout à fait la même chose, mais en gros, le jugement, on discerne. Jugement, discernement. La raison, c'est raisonner. Tout le monde sait ce que c'est. Raisonner. Je suis persuadé que dans les groupes, vous avez raisonné. Vous avez discuté. Vous avez voulu avoir raison. Vous avez pris d'excellents arguments. Puis ça a tombé à côté. Voilà. Raisonner, c'est ça. Quelqu'un qui plaide. Un avocat, il raisonne. Un théologien raisonne. Un philosophe raisonne. Un savant raisonne. Quand vous achetez quelque chose et que ça vous semble un peu trop cher, vous raisonnez. Vous trouvez d'excellents arguments pour montrer que ces fruits sont un tout petit peu trop avancés, qu'ils sont mauvais, et donc il vaut mieux les vendre beaucoup moins cher pour qu'on ne soit pas obligé d'acheter. Vous raisonnez. Mais c'est pas la même chose du tout de raisonner. La logique, elle est du côté du raisonnement. Elle est peu du côté du discernement et du jugement. Elle est très peu du côté de la saisie. Saisir quelque chose. On pige ou on ne pige pas. Et quelqu'un qui ne pige pas, vous levez les yeux devant quelqu'un, un ami qui là, il comprend pas. Chez vous, il pige pas. Vous le laissez. C'est curieux, hein? On a comme des saisies, l'intuition. On saisit. On ne saisit pas. Alors, je sais très bien, si je veux préciser, je dirais que l'intuition, c'est encore un jugement. Un jugement qui porte sur une relation, un rapport, une harmonie. L'artiste saisit comme ça des. Il saisit intuitivement. Saisir intuitivement, directement, immédiatement, une harmonie. Donc, saisir, appréhender, saisir. Bon, ça, c'est une analyse critique de ce que représente notre capacité, notre intelligence. Notre intelligence, elle est intelligente. Puis la raison, c'est le mode humain. Dieu ne raisonne pas. Il ne serait pas Dieu. Les anges, nos amis, ne raisonnent pas. Ils sont intuitifs. Et Dieu aussi. Le raisonnement, c'est typiquement humain. Parce qu'on n'est pas très intelligent et qu'on marche encore à quatre pattes. Alors on a besoin de raisonner. L'intelligence, au terme, conduit à la contemplation. Le raisonnement ne pénètre jamais dans la contemplation. Impossible. Quand vous contemplez, vous ne raisonnez plus. Vous regardez. La contemplation, c'est un regard. Un regard pur. À l'égard d'une personne. On contemple une personne. Esthétiquement, on peut contempler un paysage. Mais la vraie contemplation, c'est toujours une personne. Une réalité existante qui m'aime. La contemplation se réalise dans un jugement très pur, au-delà de tous les raisonnements. Alors, avec Descartes, on parlera d'entendement. L'entendement. L'entendement, on ne sait plus. Est-ce que c'est la raison? Est-ce que c'est l'intuition? C'est tout. Donc on ne distingue plus l'aspect appréhension et l'aspect jugement. Et de là va naître la dialectique. La dialectique, c'est justement, tout est dans un mouvement. La dialectique, c'est un raisonnement. Mais quand tout est dans le raisonnement, tout est dialectique. Alors, la foi, elle est reçue dans l'intelligence et non pas dans la raison. La foi est reçue premièrement dans l'intelligence et dans ce qui est plus profond dans l'intelligence, dans notre jugement. La foi s'exprime dans un jugement. Je crois en Dieu. Je crois que Dieu existe. Je crois que Dieu est Père. Je crois en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est toujours un jugement. Ce n'est pas une appréhension. Ce n'est pas une intuition. On adhère. La foi nous fait adhérer dans un jugement, à une réalité qui nous est donnée. Le mystère. On adhère. On ne saisit rien, on n'a pas de connaissance intuitive du mystère, on y adhère. Qu'est-ce que la vérité? Je suis obligé d'aller assez vite, hein. Qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, parole de Pilate, hein. Qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, pour saint Thomas, être vrai. Pour saint Thomas, la vérité, c'est l'adéquation de ce que je connais avec la réalité. Oui, je vous vois là, je vous dis, vous êtes assise. C'est vrai. Mais c'est bête comme joue. Vous vous levez. Ben, je dis, oui, maintenant vous êtes levé. Si je continue, vous êtes toujours assise. Ce ne sera pas vrai. Ce n'est pas conforme à la réalité. La vérité, c'est ce que je dis est conforme à la réalité. Si ce que je dis n'est pas conforme à la réalité, je ne suis pas dans la vérité. Ça, c'est la vérité très simple. La vérité pratique. Je vais acheter des carottes. Et puis, en achetant des carottes, on met derrière des carottes des navets. Vous regardez, vous dites, ah madame, à la marchande, vous dites, vous êtes trompée. Vous m'avez volé. C'est des carottes que je demande. Ce n'est pas conforme à la réalité. Oui, c'est ça la vérité. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est très simple quand je vois la vérité. Dieu, je ne le vois pas. Alors quand je dis Dieu existe, est-ce que c'est vrai? Dieu, vous ne l'avez pas touché. Cette statue, elle existe. On l'aime ou on ne l'aime pas, c'est deux choses différentes, mais elle existe. Elle existe. C'est une statue, je vous affirme. Et c'est vrai, je la touche. C'est une statue. Je ne sais pas en quoi elle est faite, mais c'est chose assez particulier. En caressant bien, j'arrive à voir en quoi elle est faite. C'est une statue. Ah non, c'est pas une statue. Je vous affirme, c'est une statue. Celui qui l'a sculptée a voulu en faire une statue. Peut-être que pour vous, c'est pas une statue, parce que vous considérez qu'une statue doit toujours avoir au moins un mètre de hauteur. Alors, c'est une petite statue. Mais pour être conforme à la réalité. Lorsqu'il s'agit de Dieu, je ne le vois pas. Alors quand je dis Dieu existe, est-ce que c'est vrai? Vous voyez, quand je définis la vérité, adéquation, conformité de ce que je dis, de ce que je pense, avec la réalité existante. Voilà. Ça, c'est la vérité prise dans ce cas-là de tout à fait fondamental et de premier. Conformité de ce que je dis, de ce que je pense avec la réalité. Mais quand je dis, je vous affirme, il existe un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Je vous dis, c'est vrai. Ben, prouvez-moi que c'est vrai. Parce que moi, je ne trouverai que lorsque je peux toucher. Je me souviens très bien avec mes dialogues avec les psychanalystes freudiens, que j'aimais beaucoup, bien que je n'étais pas du tout d'accord avec ce qu'ils pouvaient dire. Mais je les aimais parce que c'était des chercheurs. Cherchez la vérité. Vous ne la trouvez pas parce que vous avez pris un mauvais maître, Freud. Alors il ne les trouvait pas. De temps en temps, il y avait des petites parcelles de vérité. Et quand je disais ça, Dieu existe. J'ai lui prouvé le moi. Ce que j'ai jamais vu. Je dis moi non plus, je n'ai jamais vu. Alors prouvez-moi. On va essayer de vous démontrer que Dieu existe. Alors, à ce moment-là, je suis en face d'une vérité qui a été démontrée. Donc, elle n'est pas immédiate. Tandis que quand je dis, ceci, c'est une statue, je n'ai pas besoin de vous le démontrer. J'ai uniquement besoin de le toucher. Je veux dire, si vous voulez, venez toucher. Oui, c'est une vérité immédiate. Parce que il y a un jugement d'existence, un jugement qui est directement par le point de vue des sensations et qui me permet de dire que c'est une statue. Mais quand je dis Dieu existe, comme je n'ai pas l'évidence immédiate de Dieu, je démontre l'existence de Dieu. Et cette vérité qui est démontrée s'appuie donc sur une vérité première qui est la vérité d'un principe. Voyez, alors, on va bien voir ça. Vérité évidente, immédiate, je touche cette réalité. Donc ça, c'est la vérité première. Vérité première, attention, hein. C'est la vérité première pour moi, c'est pas la vérité première, au point de vue de Dieu. Donc c'est vérité, c'est premièrement cette vérité-là. Deuxièmement, vérité, fruit d'un raisonnement. Donc c'est pas une vérité immédiate, c'est une vérité médiate. Et là j'affirme, il est nécessaire que tu existes. Au plan philosophique, l'affirmation de Dieu n'est pas une vérité immédiate. Mais pour le croyant, vous savez la parole du psaume, l'insensé dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Est-ce que le philosophe peut dire ça? Non. C'est le croyant qui dit ça. Le croyant dit, l'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Parce que pour le croyant, dire Dieu existe, c'est immédiat. Donc, dire « Dieu n'existe pas » relève d'un a priori. Donc, il est insensé. Je pourrais dire « Je ne sais pas si Dieu existe ». Mais dire « Dieu n'existe pas », est-ce que vous pouvez démontrer que Dieu n'existe pas? Je n'ai jamais oublié ça. Quand vous êtes devant quelqu'un qui vous dit « Ah, Dieu n'existe pas », est-ce que vous pouvez le démontrer? Très embêtés. Ils ne peuvent pas le démontrer. Ils ne peuvent pas le démontrer. Ils devraient dire, l'affirmation de Dieu, pour moi, n'a aucun sens. Mais ils ne peuvent pas démontrer, Dieu n'existe pas. Pas possible. Puisque pour eux, Dieu, c'est un X. Inconnu. Je l'ai jamais vu. Pas parce que vous l'avez jamais vu qu'il n'existe pas. Il y a des quantités de gens que vous n'avez jamais vu qui existent. Il y a des gens qui ont vécu avant vous et qui existent. Vous les avez pas vus. À Fribourg, j'avais une année, une Allemande qui se disait athée. Après avoir suivi pendant plusieurs années les cours de philosophie, elle m'a dit, mon père, je ne dis pas qu'en suivant vos cours, maintenant je dis que tu existes, mais je peux dire que je ne peux pas prouver que Dieu n'existe pas. Et quand je retournerai en Allemagne auprès de mes chers amis qui se disent athées, je dirai attention, attention. Vous ne pouvez pas le prouver. C'est très intéressant de voir toutes les vérités qu'on ne peut pas prouver. Parce qu'on est devant des quantités de gens qui prétendent prouver que Dieu n'existe pas. Mais non, vous ne pouvez pas. Pour nous, c'est très simple, puisque Dieu existe, on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas. C'est évident. C'est une vérité de la palisse pour nous. Puisque Dieu existe, quelqu'un crie dans les médias, non, vous ne pouvez pas, il existe. Mais pour celui qui dit qu'il n'existe pas, alors il dit, je peux le prouver. Non, vous ne pouvez pas le prouver. Vous ne pouvez pas prouver que Dieu n'existe pas. Il faut réfléchir là-dessus de temps en temps, c'est très intéressant ça. Donc, incipiens, l'insensé, dit Dieu n'existe pas. Ce qui prétend prouver que Dieu n'existe pas. Or, il n'a jamais prouvé que Dieu n'existe pas. Donc, incipiens, il est insensé. Pour un sujet aussi important, savoir si Dieu existe ou Dieu n'existe pas, prétendre ça a priori, dans un a priori affectif. C'est ce que me disait le grand savant Rostand, si je n'arrive pas à dire que Dieu existe, c'est parce que sans doute, dans ma jeunesse, j'étais dans un milieu positiviste qui disait que Dieu n'existe pas. Alors ça m'est resté un a priori. Il le reconnaissait. Et pour lui, c'était la souffrance des animaux qui l'empêchait de dire que Dieu existe. Un biologiste. Bon, il y a d'autres vérités. Il y a la vérité des principes. Une autre vérité, celle-là je la constate immédiatement, celle-là elle est fruit d'un raisonnement, et le raisonnement repose toujours sur des principes, et donc il y a une vérité des principes. Un principe, alors je vous prends un grand principe, hein. Un principe sur lequel ça vaut la peine de réfléchir. Tout ce qui est en puissance est dépendant de ce qui est en acte. Principe de finalité au niveau métaphysique. Tout ce qui est en puissance est dépendant de ce qui est en acte, ou est ordonné à ce qui est en acte. Je crois qu'on peut en avoir l'évidence. Une réalité qui est en puissance est toujours une réalité imparfaite, et donc dépendante d'une réalité parfaite. Tout ce qui est imparfait dépend de ce qui est parfait. Alors quand vous dites ça à un psychologue freudien, prouvez-le-moi. Montrez-le-moi. Alors, je dis, je ne peux pas vous le prouver, c'est un principe. Un principe, par définition, c'est quelque chose qui est immédiatement évident. Alors, ce que je peux faire, c'est analyser qu'est-ce que c'est qu'un être en puissance, qu'est-ce que c'est qu'un être imparfait, et montrer qu'un être imparfait n'est jamais premier. Un être imparfait n'est jamais premier. Il est toujours relatif à un autre. Seul un être parfait peut être premier. En tant qu'il est parfait, il est premier. Alors à ce moment-là, par là, je peux montrer que tout être imparfait dépend d'un autre, puisqu'il est second, et jamais premier. Et il dépend d'un être parfait. Alors une fois que vous avez cette petite intuition, c'est très important d'avoir l'intuition de ça. Tout être imparfait dépend d'un être parfait. C'est le grand principe de la finalité. Parce que ce qui est fin, c'est le bien, c'est ce qui est parfait. Et le bien m'attire. Et donc, le bien est capable de susciter un amour, d'éveiller un amour, et de me mettre relatif à ce bien. En tant que je ne suis pas totalement bon, je suis imparfait dans l'ordre de la perfection. Vous aussi, du reste, hein, on est tous dans le même. Personne parmi vous n'oserait dire, moi je suis parfait. Je suis parfait. Vous n'avez jamais vu un être aussi parfait que moi. Peut-être que dans un domaine particulier, vous êtes parfait, c'est possible. Vous avez un, je sais pas, une perfection extraordinaire pour cuire des œufs. C'est une perfection. Personne n'a cuit des œufs comme moi. C'est possible. C'est possible, après tout. Parce que vous les cuisez en soufflant dessus. Alors, comme ça, il y a deux calorifères. Par en dessus et en dessus. Et donc, ils vont très très vite. C'est ce qui est très beau. C'est ce qui est merveilleusement. Bon. Je suis parfait dans la cuisson des œufs. Certaines perfections. Et dans d'autres domaines, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas du tout parfait dans l'ordre de l'humilité. C'est pas parce que vous êtes parfait dans un domaine que vous ne pouvez pas être humble, être parfait dans l'humilité. Mais personne n'oserait dire « je suis parfait dans l'humilité ». Donc vous êtes imparfaite, parce que vous n'êtes pas parfait dans l'humilité. Et que l'humilité est une vertu. Donc vous n'êtes pas parfait. Si vous n'êtes pas parfait, vous êtes dépendant d'un être parfait. Et c'est très important au point de vue philosophique, ça. Parce que c'est par là que vous pouvez remonter jusqu'à l'existence de Dieu. Une fois que vous avez accepté que tout être parfait, que tout être imparfait est dépendant d'un être parfait, vous avez la clé qui vous permet de dire nécessairement, il existe un être premier qui est parfait, qui est acte pur. C'est la clé philosophique. Le passe-partout philosophique, il faut bien l'employer aussi. Vous remontez à la source. C'est le principe qui permet de remonter à la source. On part de l'imparfait pour atterrir vers le parfait. Je constate ensuite, je me regarde, je suis un être imparfait, et pourtant j'existe. Et ce n'est pas moi qui me suis donné l'existence. Ça, c'est bien évident. J'aurais aimé exister autrement. Il y a des gens qui sont mal dans leur peau, et jalouse toujours le voisin qui est bien dans sa peau. Moi, je suis mal dans ma peau. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais bien exister autrement. Exister sous un mode angélique. Ça devait être quand même autrement plus agréable. Pas être obligé tous les jours de manger, de dormir. Bien plus agréable. Alors, je suis imparfait. Je constate que j'ai des limites. Tout être imparfait dépend d'un être parfait. Donc en regardant le fait même que j'existe, exister, c'est une perfection. Et cette perfection ne dépend pas de moi, donc elle dépend d'un autre. Et d'un autre qui, lui, est parfait dans son exister. Et cet être parfait dans son exister, ça ne peut être que Dieu. Celui que toutes les traditions religieuses appellent Dieu. Donc vous voyez, la vérité, elle n'est pas d'un seul type. Y a-t-il une vérité dans une œuvre d'art? Ah, cette œuvre d'art. On l'a mis là parce que c'est une œuvre d'art, ça. Donc on l'aurait pas mise là. Puisque le beau, c'est ce qui, pour le coup, c'est la délectation de la connaissance. En regardant quelque chose de beau, je suis heureux, je me repose, je me délecte. Y a-t-il une vérité dans une œuvre d'art? Ah, ça c'est quand même très intéressant. Je ne suis pas une œuvre d'art. Heureusement, parce que je ne pourrais pas vous parler. Si j'étais une œuvre d'art, je serais obligé d'être une idole qui ne parle pas, qui ne mange pas, qui n'écoute pas, qui est une idole, une œuvre faite par les hommes. Je ne suis pas une œuvre d'art. Qu'est-ce qui permet de dire que je suis une réalité vraie? Parce que j'existe. Je suis authentique, comme on dit aujourd'hui, dans la mesure même où l'on existe. Et mon exister, au plan de la foi, au plan métaphysique, dépend du bon plaisir de Dieu sur moi. Je suis une créature. Quelle est la vérité d'une créature? C'est d'être conforme à l'idée que Dieu a de moi. Je ne vois pas cette idée. C'est pour ça que vous direz, oui, ah oui, vous êtes bien conforme à l'idée. Alors ça fera de la plaisir, ça, c'est merveilleux. Je dis, pas du tout, vous n'êtes pas du tout conforme. Puis vous voyez, certains jours, oh, comme je suis malheureux. Mais on voit tout en noir. Ah, j'aurais voulu faire ça, puis j'arrive pas à le réaliser. Je ne suis pas conforme à l'idée de Dieu sur moi. Puis il y a des jours euphoriques. Je suis tout à fait conforme à l'idée de Dieu sur moi. Je ne vois pas la vérité de temps en temps. Certaines vérités, je les vois, et d'autres vérités, je les vois pas. Elles sont dans l'intelligence. La vérité d'un principe, c'est dans l'intelligence. C'est pour ça qu'un psychologue qui n'est que psychologue et qui est positiviste comme un psychologue freudien ne peut accepter comme vérité que ce qu'il constate. Je n'insiste pas, on pourrait faire toute une session sur la vérité. On l'a déjà fait du reste. Faire de la théologie. N'est-ce pas contraire à la petitesse évangélique? À faire de la vie. Ce qu'on fait de la théologie. On entre en théologie. Dans un domaine particulier. On recherche la vérité théologique. Alors, tout dépend dans quel esprit vous le faites. Si vous faites de la théologie en vue c'est de l'ambition, c'est contraire à l'esprit évangélique. S'exalter, l'orgueil, la vanité, c'est contraire à l'esprit évangélique. Mais si vous faites de la théologie pour mieux comprendre la grandeur de Dieu, pour mieux saisir la vérité, pour mieux saisir ce qu'est l'homme dans son état de créature, ce qu'est l'homme comme petite créature dépendante de Dieu. Alors à ce moment-là, faire de la théologie peut vous aider à entrer dans l'esprit évangélique, dans la petitesse évangélique. Faire de la théologie ne n'est pas la petitesse évangélique, mais ça peut vous aider à être plus petit. C'est bien ce qu'on dit habituellement. Bonne science. Exact. Beaucoup de science en petit. C'est très vrai. Être une théologienne. Je me souviens d'une retraite que je prêchais il y a quelques années. Dizaines d'années. De suite remarqué qu'il y avait dans l'assistance quelqu'un qui ne suivait pas très bien. C'était une religieuse. Jeune. S'il y a des difficultés, il va me trouver. Alors elle m'a dit, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Je dis, j'en suis désolé, mais montrez-moi pourquoi. Ah, je ne sais pas, je le sens. C'est pas ça. On peut sentir autrement. Elle m'a dit, combien d'années de théologie vous avez fait? Une année. Dans un lieu que je connaissais. Bon, alors, je dis, c'est pas tannant que vous ne soyez pas toujours d'accord avec ce que je dis. Je connais bien la théologie que vous avez faite. Je pourrais vous faire une retraite sur cette théologie-là, mais j'aime mieux pas. Parce que je crois que c'est contraire à la petitesse évangélique. Ah oh, non, père, pas du tout. C'est très évangélique. Je ne sais pas, je ne suis pas absolument sûr. La preuve, vous voyez, c'est que vous n'arrivez pas à écouter autre chose. Qu'est-ce que vous savez? C'est pas très évangélique, ça. Si vous savez, si vous aimez mieux ne pas écouter la retraite, vous pouvez partir, vous êtes ici librement. Elle est quand même restée. Et la fin de la retraite, elle dit merci d'avoir dit ça dès le début. J'ai compris en effet. son intellect qui n'accepte plus d'être subalterné à la science des saints, c'est-à-dire la vision béatifique. Alors c'est une théologie qui nous exalte. Vous voyez bien, faire de la théologie peut être bon ou mauvais. Tout dépend de l'intention morale dans nos progressions théologiques. Doit-on se mettre à l'école d'un maître? Oui. C'est bien évident, c'est comme pour toute chose. Comment progresser à être maçon? Pas franc, mais maçon. Tout court. Comment peut-on progresser? Et tout simplement, avoir un maître. Quelqu'un qui connaît son métier. Je ne dis pas avoir quelqu'un qui a des diplômes. Non. Parce que je sais ce que c'est passer des examens. Et je sais ce que c'est donner des diplômes. Quelqu'un dont on a vérifié qu'il était un théologien. Avec toutes les conditions que j'ai données ce matin. S'il était au magistère, mais c'est nécessaire. La parole de Dieu, la tradition, l'intelligence. Je ne sais pas ce qui manque le plus, mais ça ne veut rien. Donc, on doit faire de la théologie avec un maître, avec des maîtres morts et des maîtres vivants. C'est la distinction que fait tout faire. Menu réflexion d'un peintre genevois. C'est un livre merveilleux, plein d'astuces. Il ne faut pas lire ça d'un seul coup, mais petite dose. Et Topfer fait cette distinction. Il faut des maîtres morts et des maîtres vivants. Des maîtres morts, on en a fait l'expérience. Combien de théologiens d'aujourd'hui seront encore reçus comme théologiens dans 500 ans. C'est ça que les maîtres morts, il y a une sélection qui s'est faite par la terre. La terre est au service de la femme. Mais la sélection de la terre, et c'est évident. Il y a des grands théologiens. Et pour des théologiens, surtout quand ils sont des saints. Quand je suis en face de jeunes théologiens modernes, très modernes, je suis très heureux, parce que souvent ils ne sont pas bêtes. Je dis, j'attends que l'Église vous canonise avant de me mettre à votre école. Parce que d'abord, je me mets à l'école des saints. C'est une question de foi. C'est une question de santé, quoi. Pas tous les saints, mais des saints qui ont été théologiens. Albert le Grand, Saint Bonaventure, Saint Thomas, tous les saints. Saint Bellarmine. Alors, pas uniquement, hein. Je sais qu'il y a deux sources. Parce qu'il ne s'agit pas de répéter Saint Thomas. Il ne s'agit pas de répéter sa grande aventure, sauf pour faire des thèses. Autrement, non. La théologie est une chose vivante en moi, et que j'acquiers, et que je dois acquérir. Un vrai théologien, il a un habitus de théologien. Et l'habitus de théologien, c'est cette qualité particulière qui fait qu'on reconnaît un savant d'un non-savant. Les savants se reconnaissent tout de suite. Quand vous êtes en face d'un grand mathématicien, et vous le reconnaissez tout de suite. Même si vous n'êtes pas un grand mathématicien, vous êtes pigé tout de suite. Un petit peu de mathématiques. Si vous êtes un philosophe, vous reconnaissez tout de suite si vous avez affaire à un grand philosophe. Si vous êtes un croyant, si vous avez affaire à un vrai théologien. Tout de suite. C'est du toc ou c'est du bois. Tapez dessus comme ça, sur l'armure. Et vous reconnaissez tout de suite si c'est du toc. Un rhétoricien, oh, il parle très bien. Il écrit très bien. Mais c'est du toc. Il n'y a rien. Il y a des mots. Il y a des mots. Feu d'artifice. Je me souviens, c'était à Fribourg. J'ai assisté à une conférence feu d'artifice d'un jeune premier parisien. Merveilleux. Une conférence à Fribourg. Il fallait bien que j'y aille. Parce que c'était un Français. Alors tous les professeurs français étaient mobilisés, ça aurait bien écoré de ne pas y aller. Bon, au bout de 5 minutes, je me suis aperçu que ce jeune employait des mots dont il ne connaissait pas la signification. Ça me mettait en colère. Pour pacifier ma colère, vous savez ce qu'il faut faire, hein? C'est faire quelque chose. Ah, je me suis dit, bon, c'est comme si je vais aller lui faire passer un examen. Je vais marquer tous les mots dont il ne connaît pas la signification. Puis je vais voir le nombre de fois qu'il l'emploie. À la fin de la conférence, je pourrais lui faire passer un examen. J'ai fait ça, c'était passionnant. C'était passionnant. C'était extraordinaire. À la fin de la conférence, on m'a dit, vous pouvez, venez, j'ai telle personne qui va le recevoir. Et j'ai dit, non, non, je ne veux pas. Pourquoi? Oui, parce que je vais faire un scandale. Vous comprenez? Ah oui, je vais dire certaines choses. Je vais poser des questions. Vous n'avez rien, ce sera d'autant plus intéressant. Si vous voulez, très bien. Il y avait tous les Français qui étaient là, les Françaises qui étaient là. Alors chacun disait ce qu'est son avis, puis moi je me taisais, me demandais, écoutez, si philosophe, alors quand je suis devant une conférence comme la vôtre, je deviens comme Socrate. Et Socrate n'acceptait pas qu'on employait des mots dont on ne connaissait pas la signification. Or, il me semble que vous avez employé des quantités de mots dont vous ne connaissez pas la signification. C'est donc philosophique. Alors, est-ce que vous permettez que je vous interroge? Il m'a dit oui. Je vais poser. Quelle est la signification? Silence. C'était intimidé, je sais bien. Alors, je vous ai dit, vous avez le droit, en passant un examen, d'employer des mots dont vous ne comprenez pas la signification. Le professeur qui vous fait passer l'examen n'a qu'à être intelligent. Parce qu'il verra tout de suite si vous employez des mots dont vous ne connaissez pas la signification. Mais une conférence, vous n'avez pas le droit. On vient vous écouter. On est très pris. On perd une heure. J'ai pas été doux, hein. On perd une heure. On vous a écouté. Alors que vous êtes très capable de dire des choses intéressantes. Et pour faire un feu d'artifice, vous envoyez des mots qui sont à la mode. Dont vous ne connaissez pas la signification. La somme n'a pas le droit. C'est comme la monnaie. Employer une fausse monnaie. Les mots ont une signification, ils sont des emplois, on les emploie dans un but très particulier. Ce type, heureusement, était intelligent. Il était capable de faire une conférence feu d'artifice, je vous assure, l'applaudit. Personne n'avait rien compris. Ça, j'en suis sûr. Personne n'avait rien compris. Et c'était un feu d'artifice.
Et c'est comme ça qu'on fait, c'est ça qui est terrible. Falsifier la monnaie. Ça fait bien, ça faussait. Il y en est en prison. Falsifier les mots. Employer des mots.
Alors je réponds, pourquoi vous en avez deux?
s'attendait pas à ça. En même temps, j'avais l'avantage, c'était moi qui interrogeais. Quelle philosophie ! Est-ce que vous en avez plus ? Est-ce que vous avez ? Il y a plusieurs philosophies. Pour moi, il n'y a qu'une seule philosophie. La philosophie qui cherche la vérité, c'est tout. Et les philosophies, dans la mesure où elles cherchent où elles disent la vérité, autrement, c'est des sophismes. C'est des sophistes. Ils se revêtent du manteau du philosophe. Ils ne sont pas philosophes. On doit chercher la vérité. Et la vérité, c'est l'homme qu'on cherche à connaître. C'est l'homme qu'on cherche à connaître. C'est l'homme qu'on veut connaître. Tout philosophe regarde l'homme. Alors à ce moment-là, je les interroge, j'ai dit, vous êtes prêtre ouvrier, pourquoi ? Pour connaître l'ouvrier. Et pouvoir vous approcher plus de lui. Et j'en suis sûr que c'est pour ça. Parce que j'aurais dit à ce moment-là, j'étais le grand ami de l'abbé Godin, qui était le premier prêtre ouvrier. Ça me donne des galons quand je dis ça. C'est vrai, l'abbé Godin venait tous les mois au sauchoir où j'étais à ce moment-là. Pendant un mois, pendant une heure, il passait une journée de désert tous les mois. Et il passait une heure avec moi, me posant des quantités de colle par rapport aux autres et par rapport à lui. On était de très grands amis. De merveilleux amis. J'aimais beaucoup. Je l'aime toujours beaucoup. La dernière fois qu'il est venu me voir, je ne pouvais pas le savoir, parce qu'il est mort de façon accidentelle, vous savez. Il est rentré très tard chez lui. Il avait une petite chambre de bonne du côté de Montmartre. Et il avait un... Vous savez, ces sortes de chaufferies électriques qui fait quand on a très froid, on met ça sur vous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il était électrocuté. C'est un homme merveilleux. Il m'a dit, moi, je peux être prêtre ouvrier parce que je suis ouvrier par mes parents. Et j'étais ouvrier. Je suis une vocation tardive. Alors je peux être prêtre ouvrier parce que je sais ce que c'est. Et de bons bourgeois, fils de patrons, qui se mettent à être prêtre ouvrier, ils font des bêtises sans nom parce qu'ils sont séduits par l'ouvrier. Et l'abbé Godin, la dernière fois que j'ai vu, je ne pouvais pas savoir donc. Il était jusqu'à la porte. Il est revenu. Il m'a regardé. Il m'a dit, ah, père, ah, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais il faut que je vous dise ça. Je vous en supplie, restez toujours ce que vous êtes. Tendez vers la contemplation et soyez théologien et philosophe. On en a tellement besoin. On en a tellement besoin dans l'Église. C'était beau de voir cet homme qui a fondé les prêtres ouvriers. Il les a fondés dans un esprit qui était très très net. Il m'a dit, il ne faut pas généraliser ça. Il faut que ce soit des cas très exceptionnels de vocation tardive qui étaient ouvriers. Exactement comme il m'a dit, mais quand on est professeur dans une université et qu'on est religieux, on est prêtre ouvrier. C'est vrai, tout à fait juste. On est prêtre ouvrier. On est avec d'autres collègues qui gagnent leur vie. Et on doit donner le témoignage de quelqu'un qui est chercheur de vérité et qui est prêtre, qui est religieux. Il ne faut pas que le sacerdoce soit dépassé par l'ouvrier. Et ça, c'était là. Il avait très bien senti le danger, la séduction. Alors ces prêtres ouvriers, on dit oui, mais c'est vrai, on désire connaître l'ouvrier. Alors j'ai ajouté, vous pouvez connaître l'ouvrier que si vous connaissez l'homme. Et c'est pour ça que je fais la philosophie, c'est pour connaître l'homme. Vous, c'est pour connaître l'ouvrier, moi c'est pour connaître l'homme. Elle dit, mais comment vous allez connaître l'homme ? Elle dit, en faisant l'analyse de ses expériences.
Et la première chose que je fais, c'est analyser le travail. Qu'est-ce que c'est que le travail? C'est une activité humaine, mais qu'est-ce que c'est que le travail? Dans toutes ses dimensions. Qu'est-ce que c'est que l'amitié? Dans toutes ses dimensions. Qu'est-ce que c'est que coopérer? Et ainsi de suite. Alors, ils vont dire, ah, mais alors ça doit être très intéressant cette philosophie. Alors je dis, je comprends. Autrement, je ne la ferai pas, vous comprenez? Parce que si on enseigne, enseigner pour ennuyer les gens, comme disait un de mes chers frères dominicains, qui maintenant est parti pour le ciel, au moment où l'a nommé professeur, il a dit, premier cours, j'en ai bavé, vous baverez. Alors, c'est comme ça que l'espèce se continue. On n'enseigne pas pour ça. On enseigne pour communiquer la vérité. Et uniquement. Autrement, on n'a pas besoin d'enseigner. Pour essayer de communiquer ce qui nous semble être la vérité. Ce qu'on recherche soi-même. Alors ils m'ont dit, oh, ça doit être très intéressant cette philosophie. Alors imaginez. Ah oui, si on était libre, on viendrait tout de suite. Parce qu'on comprend bien ça, c'est vrai. C'est très vrai. La difficulté pour nous, c'est de distinguer l'ouvrier de l'homme. Il y en a beaucoup de peine. Parce qu'on identifie tellement facilement l'homme et l'ouvrier. Alors je dis, oui, c'est comme ça. Vous arrivez à une pensée dialectique. Vous opposez l'ouvrier et le patron. Alors qu'il faut faire comprendre au patron qu'il est un homme. Il y a l'ouvrier qu'il est un homme. Alors à ce moment-là, il y a une possibilité de se rencontrer. Tandis que si vous mettez l'ouvrier comme un absolu et le patron comme un absolu, vous ne vous rencontrerez jamais. Et vous vous opposerez dialectiquement. Pendant tout le repas, on a fait de la philosophie. Et alors, au terme, je dis, bien oui, voyez, cherchez ce que c'est que l'homme, c'est la philosophie thomiste. Ah, alors, vous vous attendiez à ce que je dise, j'enseigne la philosophie thomiste, hein? C'est ça que vous attendiez? Et oui, c'est ça que vous attendez. Eh bien, je vous ai eu. Parce qu'on n'enseigne pas, je n'enseigne pas le thomisme. La philosophie, c'est pas ça. Saint Thomas lui-même dit qu'en philosophie, l'autorité, c'est la dernière des raisons. Je veux que mes étudiants soient intelligents. Et donc, je ne les enferme pas dans un carcan, dans un système. Je veux que mes étudiants soient intelligents. Et pour ça, je cherche avec eux. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est que l'homme? Quelle est la dimension de l'homme? Il y a une théologie thomiste, mais il n'y a pas de philosophie thomiste. Alors là, ils ont été épatés. Je crois que s'ils pouvaient se convertir leur intelligence, ils ont dit, on comprend. Si c'est pour ça que vous n'avez rien compris quand on vous a enseigné le thomisme. Parce qu'on n'enseigne pas le thomisme, on enseigne la philosophie. Saint Thomas appelle Aristote le philosophe. Et il a aimé Aristote parce que c'était le philosophe qui cherchait la vérité. Et on doit aimer tous les modernes qui cherchent la vérité. Et dans la mesure où ils cherchent la vérité. Si ce sont des idéologies, non, c'est pas une philosophie. L'idéologie n'est pas une philosophie, puisqu'on parle de ses idées. Il faut accepter qu'on soit en face d'une réalité, qu'on essaie de comprendre. Alors la réalité devant laquelle je me trouve tout le temps, ben, c'est l'homme. Comprendre un peu ce que c'est que l'homme. Savoir ce qu'il est. Toute la philosophie réaliste est ordonnée à la connaissance de l'homme. Ça, c'est capital de comprendre ça. Et c'est en ce sens-là qu'une telle philosophie peut être au service de la foi. Parce qu'elle cherche la vérité. La philosophie, dans la mesure où elle découvre la vérité, peut être au service de la foi. Mais une idéologie, de droite ou de gauche, ne peut jamais
être au service de la foi. Parce que la foi n'est pas une idéologie. La foi, c'est adhérer au mystère. Et le mystère n'est pas une idéologie. Dieu est la réalité. Comme dit saint Augustin, Dieu est la réalité. Et Jésus, c'est la réalité pour moi. C'est cette réalité-là qu'on cherche. Et pour ça, je mets au service de cette foi une pensée qui cherche la vérité. Mais un croyant intelligent qui cherche la vérité et théologien, c'est bien évident. Tout de suite, quand on cherche la vérité, quand on est intelligent, on cherche la vérité, puisque la vérité est le bien d'intelligence. Et donc on cherche à être de plus en plus intelligent. Pour moi, la philosophie n'a pas d'autre but que d'être intelligent. En vue, puisque je suis croyant, en vue de mieux comprendre la parole de Dieu. En vue de mieux comprendre ce qu'est la théologie au service de l'Église, au service du peuple de Dieu. Mais évidemment, je ne veux pas prendre saint Thomas du haut de la chair, article, question 3, article 2, la prima pars, une question extrêmement intéressante. Personne ne comprendra rien. Il faut quand même avoir le sens de s'adapter. Mais on s'adapte dès qu'on est intelligent. C'est un signe de non-intelligence, la non-adaptation. Parce qu'un grand arbre vivant crée autour de lui un climat. Un petit arbre, tout petit, petite plante, a peur des premières gelées printanières. Alors on met une cloche au-dessus. On l'adapte, on met une cloche au-dessus. Il y a des gens qui sont adaptés en ayant une cloche au-dessus d'eux. Leur unique souci, c'est s'adapter. Mais il faut encore avoir quelque chose à transmettre. Leur unique souci, c'est de s'adapter. Mais non, on est au serviteur de la vérité. On cherche la vérité, on essaie de l'atteindre. On l'atteint toujours très mal. On ne possède pas la vérité. On est possédé par la vérité. Et c'est bien quand on est possédé par la vérité. C'est pas mal d'être possédé par la vérité. Et alors, possédé par la vérité au plan philosophique, on se met au service de la foi, de la parole de Dieu.